Bonjour, soyez les bienvenus. Je vous propose de retourner du côté du festival Fête de la Chanson organisé par l'association Didouda. Fête de la Chanson 14e édition cette année consacrée au Québec et au Canada. On va dans un premier temps retrouver le Jazz Lab Arajoie qui se produisait dans le cadre des Heures Avec. Et puis ensuite, nous serons avec Mehdi Cayenne. Les interviews publiques de Radio Scarpe Sensé réalisées dans le cadre du festival Fête de la Chanson avec Didouda. On retrouve tout de suite le Jazz Lab Arajoie présenté par Anne et Dialina.
À la base quartet, parce que le professeur de guitare ne pouvait pas être là. Mais en fait, il se trouve qu'on a recruté un autre professeur de guitare l'année prochaine pour qu'il soit à deux, qu'il puisse avoir des plages horaires plus larges. Et donc, le deuxième se trouvait libre. Donc, on s'est dit, eh bien, c'est l'occasion, tu viens te montrer. Comme ça, voilà. Donc, ça s'appelle quartet sur le papier, mais vous aurez quand même un quintet.
Voilà. Jazz Lab, pourquoi ? C'est de l'expérimentation, c'est de la recherche ?
Alors, c'est pas de l'expérimentation ni de la recherche, c'est tout simplement du travail, une plateforme de mise en commun de potentiel, de compétences, de moyens, de locaux, d'expérience tout simplement, et orientée vers le jazz et les musiques actuelles. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là.
Arras, ça reste une place forte jazz.
On le voudrait, on travaille pour ça, oui. Il y a compliqué. Une longue histoire de jazz à Arras et il y a eu des hauts et des bas. Et là, on essaie de repartir vers le haut avec des partenariats qui sont très riches et une équipe qui est extrêmement soudée à côté de nous, donc dont Dialina est le représentant le plus charmant.
La passerelle entre le jazz et la chanson, finalement, c'est quoi ? C'est peut-être l'occasion d'amener un public vers le jazz et d'amener le public du jazz vers la chanson. Il y a cette idée-là également de croiser les publics.
Oui, puis Dialina est la plus belle passerelle parce que c'est une chanteuse et de jazz et de musique moderne, enfin, je pense. Donc peut-être tu peux répondre.
Ça veut dire quoi être chanteuse de jazz ?
En fait, le jazz permet, surtout aussi pour ceux qui n'y connaissent rien, j'ai beaucoup d'élèves qui découvrent le jazz avec moi, mais en fait, pour moi, c'est la passerelle à l'interprétation, à la liberté d'interpréter, comme on le souhaite, mais en respectant effectivement les codes de la musique en général et du jazz plus particulièrement.
Toutes les chansons peuvent être interprétées forme jazz, ou alors il y a quand même des choses qui font que ça va coincer, on ne pourra pas tout faire.
Faut pas se donner de limites. Après, il y a certains morceaux qui sont tellement bien écrits, tellement bien interprétés à l'original que parfois on peut avoir un peu de réticence à venir les changer. Mais selon moi, il n'y a pas de limite à avoir. Au contraire, il faut tenter, il faut tester. C'est ce que font plein de musiciens de jazz.
Qu'est-ce que ça amène en plus à l'interprète que de s'essayer à l'exercice du chant jazz ?
Bah, c'est du vocabulaire. Du vocabulaire, des idées et le fait de pouvoir aussi, pourquoi pas, participer à des buffs, à des karaokés comme ça, tout en ayant sa patte, son oreille, sa personnalité qui s'exprime.
S'établit comment le répertoire, tout ce que vous allez donner ce soir, qu'est-ce qui a fait que cette chanson, on la sélectionne, on va l'interpréter, on la met, ce sont des envies de chacun, on en discute ?
Alors à vrai dire, c'est beaucoup basé sur mes répertoires à moi. Ouais. Je suis restée axée sur un répertoire plutôt jazz qui terminera avec une petite touche de soul, petite touche de reggae. Mais sinon, ça vient de moi, c'était plus simple en fait par rapport aux tonalités, aux choses à mettre en place, etc. Et ensuite, les musiciens sont tous professionnels. Donc voilà, en quelques répètes, quelques mises en place, et on se laisse un espace de liberté aussi dans chacun des morceaux pour ensuite se laisser porter par le moment T.
La voix véritablement comme un instrument à ce moment-là ?
Absolument, ouais.
Alors ça veut dire quoi ? Ça passe par le silence, également par ça ?
Tout est rythme. Le silence, les mots, le côté percussif de la voix, on peut très bien sans mot aucun faire des chansons, des phrases, être soi-même instrumentiste aussi.
Et ça va également se faire dans toutes les langues ?
Ça peut.
Ouais. Et là, en l'occurrence, ce soir ?
Là, je vous avouerai que je suis beaucoup axée sur l'anglais.
Pourquoi ?
D'une part parce que c'est une langue qui me permettait, moi, il y a plusieurs années au départ, de swinguer plus facilement. Le français, j'y suis arrivée vraiment sur le tard, voire très tard, et c'est vrai que c'est pas mon répertoire de prédilection. Mais ça peut m'arriver des fois que d'interpréter quelques morceaux français. Mais sinon, je fais spécifiquement des morceaux de jazz, de la bossa nova, donc un peu de portugais. Donc, ouais, jazz, latin jazz et soul music, musique black américaine, en fait.
À quel moment on peut mettre l'adjectif ou la catégorie jazz? Alors, à ce moment-là, si on va sur la bossa nova, sur le funk de temps en temps, sur le reggae, qu'est-ce qui fait que, ouais, on peut dire finalement, ça sonne à jazz, tout ça?
Le jazz, c'est un état d'esprit, c'est un swing. À partir du moment où on prend à bras le corps et qu'on interprète avec sa personnalité, tout peut être jazz, en réalité. Mais avant tout, c'est un swing, un état d'esprit, une envie de faire ensemble et de créer des moments inédits auxquels soi-même on ne s'attend pas, en fait, l'improvisation.
Tu sévis dans d'autres formations?
Oui.
Ouais. Comme tous les autres, ça veut dire qu'à ce moment-là, on se réserve quelque chose à part de ce que l'on fait à côté pour le faire dans le cadre de ce quintet. Est-ce que quand même les répertoires se croisent? Ou alors, quand
oui.
on est sur différents projets, il y a véritablement un répertoire pour tel projet ou,
Ah, ça peut se croiser. Là, par exemple, je pense à un morceau, Louise, qu'on vous interprétera tout à l'heure. C'est un morceau que j'ai déjà joué avec notre contrebassiste Luigi, qui est quelqu'un que je connais depuis quasiment 20 ans. Et donc ça, on l'a rajouté à notre petit répertoire parce que c'est un morceau qu'on aime particulièrement faire en toute petite formation, duo et trio tout à l'heure.
On va présenter le reste des musiciens également, peut-être en dire quelques mots. C'est Anne qui nous présente.
Oui, alors vous voyez là s'agiter derrière nous Pierrick sur votre droite, que les Arrajois connaissent bien. C'est notre professeur de piano et il est avec nous depuis bien longtemps. Il est très solide et très, très tranquille, ne s'énerve jamais, ce qui est très précieux, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. À côté, vous avez Dimitri dans le fond, le batteur, qui est aussi très bien connu parce qu'il est très local. Il n'habite pas très loin d'ici et beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, même ici cette semaine. Je pense qu'il a déjà joué dans plusieurs événements. Vous devez voir le contrebassiste. Luigi, montre-toi. Fais un beau sourire. Voilà, Luigi. Luigi qui est contrebassiste et bassiste et qui est donc un très vieux partenaire musical d'Edialina. Et derrière moi, Mathias, notre petit nouveau. Notre deuxième guitariste, donc, il va compléter le travail de Christophe l'année prochaine, parce que deux guitaristes, ça ne sera pas de trop. Voilà. Je pense que j'ai tout dit.
La formule, elle est arrêtée, ou alors l'ensemble peut amener à gagner de nouveaux membres dans son sein et passer à une formation supérieure et accueillir de nouveaux musiciens?
Mais je crois que dans ce type de musique, on est justement, comme disait Dialina, toujours appelé à s'ouvrir et à partager, puisque c'est une musique qui est basée sur le partage. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui étaient là le 3 juin, on a fait notre fête d'association. Et Thierry Montagne, qui est quelque part par ici, qui est saxophoniste fort connu dans Arras, a fait pratiquement tout le set avec eux. Alors que ce n'était pas prévu, il n'avait pas répété, il n'avait absolument rien de travaillé là derrière. Et c'était tout à fait magnifique, et d'autant plus magnifique que c'était complètement inattendu et non organisé. Donc je ne vais pas dire que n'importe qui ici est appelé à monter sur la scène, c'est pas ça, mais dans l'absolu c'est une musique qui s'ouvre et qui est effectivement apte à accueillir d'autres musiciens.
Et les projets du Jazz Lab sont lesquels?
Alors,
parce
ils
que
sont
c'est
nombreux.
Tout neuf finalement, oui. C'est très récent.
Oui, c'est récent, sans être récent, tout en étant récent, voilà qui est très clair. Disons que ça a recommencé sous cette forme-là au mois de novembre, et nos projets sont bien sûr de nous développer, surtout développer les ateliers de pratique collective, parce que c'est une façon d'apprendre qui nous plaît beaucoup, vu que justement, elle oblige au partage, à l'écoute. C'est quelque chose qu'on essaie de développer beaucoup. Après, on a un gros partenariat qui s'est mis en place avec Didouda, justement. C'est une des raisons pour lesquelles Dialina, mais je lui laisserai le micro pour le présenter, va montrer un peu le travail qu'on a commencé à faire il y a un mois. Donc on mutualise encore une fois nos musiciens, nos moyens pour des ateliers de chant.
Ben voilà, alors quelques mots sur ces temps d'échange avec l'association Didouda. Qu'est-ce qui se passe le reste de l'année en dehors du temps du festival?
Alors on a mis en place depuis quelques semaines des ateliers à destination des enfants et des ados. Ces ateliers ont commencé depuis 4 semaines, un mois environ. J'ai fait 3-4 cours avec deux toutes jeunes filles que je vais vous présenter d'ici peu. On a quand même eu le temps de travailler un petit morceau. On tenait à vous le présenter. donc avec qui on travaille, évidemment des aspects techniques et des chansons françaises, hein, puisque là effectivement c'est le principe, c'est de pouvoir au sortir des ateliers se faire son petit répertoire, se faire plaisir, et le chant permet aussi de gagner de la confiance en soi, de se faire plaisir, enfin physiquement il y a beaucoup de choses qui peuvent être très très positives, et chez les enfants d'autant plus. Et par contre, l'atelier ado, on a fait un seul cours. J'ai une jeune adolescente, mais qui est bourrée de talent, qui pourra vous présenter aussi un morceau dans quelques instants. Dès lors qu'on sera plus nombreux, le principe est le même. Chanter ensemble et seul aussi, en soliste, dans des conditions avec micro, avec accompagnement. On espère mettre en place aussi des ateliers, parfois accompagnés d'un pianiste, par exemple, pour aussi travailler cet aspect-là, le live. Donc plein de choses super sympas. En tout cas, ça se passe très très bien jusqu'à présent.
Bien, merci. Alors Anne, peut-être pour une dernière précision, je pense que Mehdi vient d'arriver dans la cour, il est là. Donc Anne, vous souhaitez...
Je voulais juste conclure en disant que si vous souhaitez avoir des informations sur ce qu'on fait, les horaires, les prix, comment faire, quoi faire, etc. Personnellement, je tiens une permanence tous les mercredis après-midi au conservatoire, dans notre local du conservatoire. Donc j'y suis de 2h à 18h30 et vous venez quand vous voulez pour bavarder, dire bonjour ou poser toutes vos questions. Voilà.
Anne et Dialina pour le Jazz Lab à Arajouam, dans le cadre du festival Fête de la Chanson et des interviews publiques réalisées dans le cadre de ce festival par Radio Scarp Sensé. Dans un instant, nous serons avec Mehdi Cayenne. Justement, à propos de Mehdi Cayenne, je vous propose de le retrouver dans Rivière.
On l'appelait Rivière, il vivait dans un rêve où je l'ai vu hier me porter à ses lèvres. Il m'a donné à boire avant de caché dans ton regard, je sais le reconnaître. Voile rivière dans tes yeux, tout ensoleillé, ça dérange pas quand il pleut. J'ai pas peur de me mouiller, même quand mon sourire pleut. Je continue à ramer quand on tombe dans la mort. Ah, c'est pour apprendre à nager.
Cayenne, Rivière, Mehdi Cayenne, que l'on retrouve tout de suite à l'occasion de l'interview publique réalisée dans le cadre du festival Fête de la Chanson à Arras avec l'association Didouda.
Bonjour. Bien. Ça va bien. Le timing est serré.
Oui, mais je vais parler très vite.
Je peux pas passer à côté, je la fais tout de suite. Arras, c'est le bagne quand on s'appelle Cayenne.
Oui, exact. Mais bon, c'est oui, justement, ça fait un peu... ça ramène... comment dire, c'est connecté à la genèse, justement, du Cayenne Club. Ouais. Vu que c'est nommé après le bagne de Cayenne.
Alors justement, au début, le pseudo Cayenne, ça vient de là justement.
Ouais, ouais. Ouais.
Qu'est-ce qui t'a inspiré de te dire je vais former un collectif qui s'appelle Cayenne Club? Il n'y a plus glamour qu'un bagne quand on refait de la musique.
L'image que j'avais, c'était des gens qui s'enfuient, qui s'évadent d'une prison qu'ils ont dans la tête. Un peu justement à l'image du bouquin d'Henri Charrière, Papillon. Et c'est de là que ça venait. Et ensuite, avant de partir, en fait, j'étais en train, dans ma cuisine, de faire une reprise de la chanson de Jacques Higelin, Cayenne, c'est fini. Alors donc tout ça, je ne sais pas, je trouve que c'est un terreau fertile. Et puis aussi, ça fait un peu, c'est un peu une blague sur un groupe de musique du monde, tu vois, ça fait un peu ouélélé. Tu sais, moi, ça me faisait rigoler, t'imagines, avec les pantalons blancs, le collier de coquillage et tout ça. Je trouvais ça aussi humoristique et sérieux à la fois.
Voilà, moi, quand j'ai commencé à écouter un petit peu, forcément, on a des références. Hein. Puis on se dit, mais zut, ce garçon, il aurait pu naître à Minneapolis et puis faire une carrière dans la lignée d'un Prince ou de quelque chose comme ça. Ça t'inspire, ça?
Ben oui, c'est gentil. Mais je pense que je marche vraiment pas aussi bien dans des talons hauts. Surtout là, comme ça, avec les galets, ce serait vraiment...
mais c'est ce côté pop que l'on retrouve dans ce répertoire-là que tu amènes également avec quelque chose de différent, finalement, qui fait ton image. La pop, c'est vraiment ce que tu cherches à faire. Ça résume.
Finalement, la pop, ça veut dire de la musique que les gens aiment. Alors, si oui, si on la définit comme ça, oui. Mais je pense que ce que j'amène qui est similaire à Prince, c'est, comme M aussi, c'est le côté du funk. Le funk, c'est un type de musique, mais c'est aussi une manière de se déplacer, je pense, une manière aussi, une certaine attitude, si on veut. Et je pense que ce genre de démarche-là, de rythmique-là, se retrouve dans ce que je fais. Et puis, tu sais, aussi, beaucoup, la chanson française est beaucoup plus basée sur la musique en trois, la valse, ton kang kang.
Alors... Avant de parler de la chanson, tu parles de la façon de l'amener également. La chanson plutôt que la comédie, parce que tu as pensé également à un moment être acteur. Qu'est-ce qui fait que ça balance?
C'est juste parce que c'est beaucoup plus gratifiant d'organiser ton propre spectacle. Quand ouais. Tu es acteur, il faut que tu fasses des auditions. Et donc, il faut que tu bosses avant d'aller bosser. Il faut croire que je suis paresseux. Parce que... Mais effectivement, il y a toujours un aspect de jeu. Et d'espace et tout ça, il y a des points communs entre les deux, bien sûr.
Qu'est-ce qui t'a ouvert à ces univers? C'est la famille, il y a des musiciens déjà, il y a un milieu artistique, tu as grandi dans un milieu, on va dire, favorable à pouvoir envisager une carrière?
Oui, je dirais que ma famille aime beaucoup les arts au sens large, mais il n'y a pas de musicien dans ma famille immédiate, j'étais plutôt autodidacte en fait. C'était une espèce d'élan un peu difficile à expliquer. Parce que c'est pas très logique d'être musicien. Si tu te dis je vais être chirurgien, ben là, il faut des chirurgiens. Tu sais, je vais être prof, il faut des profs. Mais des musiciens, c'est plus relatif de se dire il en faut. Tu sais, fait que c'est toujours un peu une espèce c'est un délire.
Ce serait moins utile que le reste, selon toi?
Mais non, c'est pas moins utile, évidemment. Mais je veux dire que c'est... Bon, il y a Nina Simone, il y a Beethoven. Alors évidemment, c'est pas logique de se réveiller le matin et de se dire, vous savez, je pense que... L'histoire de la musique va bénéficier de ma présence à Arras ce soir. Tu sais, c'est toujours un peu déraisonnable, c'est illogique. Mais en l'assumant, on le vit bien. Et puis, je suis content de ce que je fais. Et vous m'invitez, ça doit être bon signe.
Ouais, et puis tu feras plusieurs dates du reste. Si on traite aujourd'hui, on te retrouve jeudi.
Ouais, à Douai. À Douai, pour la fête de la musique.
À quelques kilomètres d'ici.
Et il paraît qu'il va peut-être pleuvoir. Et l'an passé, j'ai joué à la fête de la musique, mais à Paris. Et il a fait 45 degrés. Et c'était horrible parce qu'il faisait très très chaud. Donc j'espère quasiment qu'il va pleuvoir. Ça va. Non mais quoi, c'est bien, au moins ça rafraîchit.
Troisième album, qu'est-ce qui fait qu'à un moment on passe par le disque et qu'on ne peut pas se contenter de la scène? C'est indispensable, c'est nécessaire et ça se porte aussi bien là-bas au Canada. Tu viens d'Acadie, c'est bien ça?
Entre autres, j'ai grandi au Québec, en Acadie et en Ontario.
D'accord.
Et je suis né en Algérie et ma mère est française. Voilà, vous savez tout, bonsoir. Mais pourquoi faire un album au-delà de la scène? En fait, l'album, c'est un petit peu le laboratoire de jeu. Tu sais, comme un enfant qui joue et qui prend ses jouets, il y a comme cette création d'un monde imaginaire très intime. Donc, c'est pour ça qu'on dit jouer de la musique, c'est une partie importante de la chose qu'on ne retrouve pas exactement de la même manière dans le spectacle. Parce que le spectacle, il y a une sorte de communion. Le spectacle est différent à cause des gens qui y sont. Alors que l'album, c'est différent, c'est pas le même, c'est beaucoup plus minutieux, une sorte d'artisanat d'orfèvrerie.
Et puis peut-être également beaucoup de techniques possibles, forcément le temps nécessaire en studio qu'on n'a pas sur scène. Comment on fait pour ne pas décevoir et ramener quand même ce qu'entend l'auditeur sur l'album et ne pas être déçu au moment d'arriver sur scène? Il faut être bien encadré à ce moment-là.
Finalement, quand on fait une chanson, c'est des idées. Et l'idée, c'est d'amener, dans ce qui m'intéresse, c'est que les idées soient présentées de façon très immédiate. Et pour qu'elles soient immédiates, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe réellement. Et c'est ça aussi un spectacle. Qu'est-ce qui fait que d'un spectacle à l'autre, on s'emmerde pas? C'est qu'il y a quelque chose de différent à cause des gens qui sont là. Tu essaies de susciter un moment. Mais quand on enregistre aussi, tu essaies de susciter un moment. Donc, il y a quand même des points en commun.
Le fait de faire un troisième album, cette fois-ci uniquement en français, c'est parce que le marché français, c'est plus simple que le marché américain?
J'ai mélangé le français et l'anglais avant, mais c'est vrai que c'est pas très logique parce que quelqu'un qui parle juste anglais, ils achètent l'album et ils disent « Ah... » Donc, mais c'est pas vraiment réfléchi comme ça, à se dire « Ah, je vais en vendre plus en français qu'en anglais » ou vice-versa, parce que de toute façon, personne vend des disques de toute façon, tu sais. Et qui plus est, j'ai, par exemple, l'an passé, j'ai fait une tournée en Italie et beaucoup des gens à qui je parlais, ben, ils comprenaient pas mes paroles ni en français ni en anglais, mais ils aimaient ça pareil, tu sais. Donc, il y a quelque chose de viscéral qui passe au-delà de la langue ou en parallèle.
Dans l'écriture, les mots sont justes, les phrases sont courtes. T'aimes bien trouver la formule, une sorte quasiment de slogan qui va faire que ça va prendre. Le gimmick, il doit être aussi dans les mots, aussi bien que dans la musique.
Ben oui, absolument. Qu'est-ce que c'est le... J'avais un pote qui avait fait une description du slam comme ça, que c'est quelque chose entre le sens et le son. Et effectivement, c'est intéressant d'essayer de créer des phrases qui, justement, ont une certaine immédiateté, sans nécessairement être linéaire narrativement. Jean-Pierre s'est levé ce matin à manger un œuf au plat. Il y a des gens qui le font très bien. Georges Brassens, c'est un excellent exemple d'une chanson linéaire. Mais j'ai l'impression que j'essaie de garder une immédiateté, mais les chansons ne sont pas une narrative de la même manière.
Interview publique dans le cadre du festival Fête de la chanson à Arras, Mehdi Kayenne. Voici la pluie. Cayenne, la pluie, Mehdi Kayenne, que l'on retrouve en interview publique au festival Fête de la chanson avec l'association Didouda.
Ce qui se passe dans le monde, ça devient prétexte à chanson, il y a des choses qui te donnent envie d'écrire. Tu parlais de ton parcours, voilà, tu es né en Algérie, d'une mère française, d'un père
algérien.
Tu grandis donc au Canada, enfin voilà, il se passe des tas de choses dans le monde, t'as pas envie... Comment tu regardes ça? Est-ce que ça pourrait devenir chanson? Est-ce que c'est déjà devenu chanson?
Oui, absolument. Je pense qu'écrire fondamentalement, peu importe ce sur quoi on écrit, fondamentalement, écrire, c'est un acte d'amour. C'est un acte créatif qui part de la vie et qui parle à la vie. Et l'élan qui est là-dedans, de faire de l'art, c'est pas de, gagner sa vie avec, ou de se dire qu'on va faire de l'art et d'avoir un beau foulard jaune comme ça et être au-delà des gens. Je pense que, je sais pas, le fait de se dépasser, de creuser en dedans de soi, c'est sûr que ça me vient de ce que j'observe, de ce que j'ai vu de ma famille, de ce que j'ai vu de mes parents, parce que la majorité des gens n'ont pas la chance de faire ce qu'ils aiment dans la vie, tu sais. Donc, c'est sûr que c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'art qui existe réellement hors de la vie. L'art parle à la vie et c'est un peu sa job que cette conversation ait lieu, si on veut.
Tu es arrivé à Arras il y a combien de temps?
Il y a à peu près une heure.
Ouais.
Mais je suis passé en mars, en fait. Je suis passé chez vous, absolument. Et je savais que j'allais revenir. Alors là, c'est un peu le grand retour, c'est le fun.
Ça te plaît, cette vie qui va vite, dans un monde qui va vite, tu trouves encore le temps de te poser, justement, parce que le fait d'écrire, ça demande également de temps en temps de se mettre hors du temps. Tu arrives à trouver ce temps?
Oui, c'est vrai, ce que tu dis là, c'est exactement vrai, qu'il y a, c'est comme marcher. On peut marcher en déambulant ou en allant quelque part. Et effectivement, l'espèce de, quand on est en train d'aller quelque part, on n'a pas cette espèce d'abstraction de la pensée qui arrive quand on ne va nulle part. Donc effectivement, des temps pour ne rien faire, d'abord, sont essentiels à la création. Puis c'est aussi un peu révolutionnaire comme concept, parce que finalement, le modus operandi de notre époque, c'est que justement, ton temps vaut quelque chose si tu travailles, puis si tu gagnes de l'argent, puis si tu n'es pas en train de faire ces choses-là, qu'est-ce que tu ajoutes à la société, esti, et tout ça. Alors que finalement, justement, tant de choses viennent de ce temps qui est, entre guillemets, gaspillé. Et de la même manière, tout temps de valeur ont des gens qui, aux yeux du système que je décris là, sont vus comme étant inutiles. Tu sais.
Le goût qu'a le public français pour la chanson française outre-Atlantique, comment vous le regardez en étant là-bas cette fois-ci, ou au Québec, ou en Ontario, ou en Acadie? Est-ce que vous comprenez l'engouement qu'il peut y avoir pour le public français, pour la chanson française portée par les interprètes d'outre-Atlantique?
Oui. Ben, c'est qu'il y a un certain exotisme, en fait, envers les cousins qui est... je ne dis pas qu'il y a un complexe d'infériorité ou de supériorité, c'est juste que c'est vrai que ça fait drôle. C'est quelqu'un qui parle la même langue, mais avec un autre accent, d'autres expressions et tout ça. Mais en même temps, moi, j'ai grandi... Mais ma mère est française, donc je connais mon Robert Charlebois, mais je connais mon Brel et mon Piaf aussi, alors... et Brassens, absolument, et ne pas oublier, et Léo Ferré, attention, il y en a d'autres, partie pour Serge Gainsbourg, oui, Jean Ferrat, Marc Augeret, attention.
Ah, Barbara.
Oui, Barbara, bien sûr. Mais c'est vrai que la grande différence, comme je disais tantôt, c'est que, justement, l'héritage de la chanson française est très ternaire. C'est les valses. Tan-nan-tan. Tu sais, puis le funk dont on parlait tantôt, c'est vraiment comme... Donc, il y a vraiment une autre forme de mouvement dans comment les choses sont composées. Et vu que j'ai un peu les fesses entre deux, trois chaises, ce genre de distinction-là m'intéresse aussi. Tu sais. Mais donc, je suis content de... Si y a des gens qui trouvent ça exotique, puis le fun, je suis à vous, ça fait plaisir, c'est le fun. Bonjour.
On va laisser la place dans un instant au Jazz Lab. Simplement, avant de se quitter, tu nous présentes ceux qui t'accompagnent ce soir sur la scène au Pharos. Tu seras accompagné de...
Oui, ok, je pensais que tu me disais qu'ils devaient être là, puis comme ils ne sont pas là, en fait, non, en ce moment.
Non.
Oui, bien sûr.
Tu les connais?
Oui, on se connaît. Ils savent qu'ils vont jouer le spectacle. Je ne les ai pas juste séquestrés pendant 5 jours en disant « Si tu fais le spectacle, tu pourras partir chez toi. » Merci. Je vais jouer avec François Gravel au clavier. Il a des yeux, un nez, deux oreilles, vous allez voir, 10 doigts, il fait des super trucs. Et avec Maxime Drouin, qui va jouer de la batterie. Et lui aussi, figurez-vous, a un nez, des oreilles, 10 doigts, etc. Et ça va être extraordinaire. Franchement.
Donc, en formule trio ce soir.
Exact.
Bien, merci Mehdi.
Merci beaucoup,
ça a fait plaisir. Bon concert.
Merci Hervé.
Et l'on conclut cette émission avec Mehdi Cayenne, Je te vois.
Chaque matin, en me levant, je me trempe en t'écoutant. Bassesse du vent, langue d'oiseau, papyrus sous ma peau. Quelque chose de bizarre qui fleurit encore quelque part. Je te vois. En un instant, tout disparaît. En un instant, tout apparaît. Qu'est-ce qui reste vrai, je ne sais pas. Respire une minute avec moi. J'aimerais qu'on se dise les choses qui ne sont ni crises ni roses. Je te vois, je te sens en moi, sans te comprendre, sans te connaître. Je te reconnais, je te
demoiselle, ma grande ours, ma léchée, donne-moi ta sève, ma belle étoile, à genoux, feu de joie, toi et moi, on chantera, je te vois, je te sens en moi, sans te comprendre, sans te connaître, je te reconnais, je te reconnais. 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 Je me tremble en t'écoutant, princesse du vent, langue d'oiseau, papyrus sous ma peau, langue d'oiseau, langue d'oiseau, langue d'oiseau, langue d'oiseau. Chaque matin, en me levant, je me tremble en t'écoutant, princesse du vent, langue d'oiseau, papyrus sous ma peau, langue d'oiseau, langue d'oiseau, langue d'oiseau, langue d'oiseau. Chaque matin, en me levant, je me tremble en t'écoutant, princesse du vent, langue d'oiseau, papyrus sous ma peau, langue d'oiseau, langue d'oiseau, langue d'oiseau, langue d'oiseau.
Mehdi Kayenne, je te vois. Mehdi Kayenne, qui était donc notre invité dans le cadre des interviews publiques réalisées par Radio Scarpe Sensée à l'occasion du festival Fête de la Chanson qui cette année proposait le Québec en invité d'honneur. Merci de votre attention. On se retrouve très prochainement avec de nouvelles interviews publiques. Salut, bye.